explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
C'est la prof de sciences physiques que l'on aurait tous rêvé d'avoir. En 35 ans de carrière, Christiane Mordelais a emmené avec elle en voyage près d'un millier d'élèves. En plein désert de Gobi, elle a fait travailler des classes sur le Big Bang. Au Groenland, elle a donné des cours sur le pôle Nord magnétique et le pôle Nord géographique. Elle est aussi allée installer avec des lycéens un réfrigérateur solaire qu'elle avait construit avec eux dans un village de l'ancien Zaïre. Au cours de ses nombreux voyages, l'enseignante a appris à filmer. Elle est aujourd'hui retraitée de l'éducation nationale, mais elle continue de réaliser des films sur l'éducation et la jeunesse à travers le monde. Plusieurs de ses documentaires ont même été primés. C'est le cas notamment de Grandir au Ladakh, récompensé lors du festival Objectif Aventure en janvier 2019. Aujourd'hui, Christiane Mordelais vient nous raconter sa vie de prof et de réalisatrice baroudeuse. Et en fin d'émission, le sociologue de l'alimentation Éric Birloez nous parlera ratatouille. Nous verrons avec lui que pour remonter aux origines des ingrédients qui composent ce plat méditerranéen, il faut aller bien plus loin que sur les rives de la Grande Bleue. Voilà pour le menu de cette émission diffusée pour la première fois le 5 août 2019. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
J'aime bien, c'était assez petit et ça permet de partager avec les autres. Comme ça, on apprend à ne pas prendre toute la place, à penser aux autres. D'être avec les autres, ça permet de partager. Ça.
Le mot des Mongols, ça serait partager. Quoi. C'est... Le mot des Français, ça serait plutôt gagner, mais le mot des Mongols, ça serait partager.
Des fois, les parents, quand ils parlaient le soir, j'avais l'impression que c'était mes parents qui parlaient. Même si je ne comprenais pas, c'était la même ambiance. C'était assez agréable.
Des chants mongols, et nous avons entendu la voix d'une des nombreuses élèves qui est partie avec vous, Christiane Mordelais, dans le cadre d'un voyage scolaire. Vous êtes allée dans le désert de Gobi, c'est ça, avec ses élèves. Quel souvenir ça doit être?
Oh ben c'est fabuleux, ils sont restés donc 3 semaines tout seuls sous la yourte dans des familles mongoles dont ils comprenaient pas un traître mot, et les familles mongoles ne comprenaient pas le français, donc ce qui fait que a priori ils étaient perdus. Et justement la petite Célia, donc vous avez choisi l'interview, la petite phrase là, elle était extraordinaire et je l'ai retrouvée presque 25 ans après. Cette gamine-là, en plus, elle avait dit quelque chose d'extraordinaire encore. La langue française, elle était du Midi, avec un petit accent du Midi. La langue française, elle me manque un peu. Alors, le soir, avant de m'endormir, je lis les recettes de Roico Minute Soupe qui sont écrites sur les soupes en sachet. Et ça me fait comme si quelqu'un me parlait en français. Et donc, elle se contentait de lire. Enfin, je trouve qu'elle était extraordinaire. Et on a repris contact. C'est une fille extraordinaire qui fait du basson. Donc il y a déjà pas beaucoup de femmes qui font du basson en tant que professionnelle, elle a plus de 30 ans maintenant. Et ça, elle voulait rejoindre sa corresse, j'ai réussi à retrouver sa correspondante, qui est la seule femme qui fait du chant diphonique en Mongolie. Et elles sont en train de se préparer toutes les deux, l'une avec le conservatoire de musique et l'autre avec un grand groupe de théâtre de Oulan-Bator, un concerto pour basson et chant diphonique. Ouais. Ça, c'est des histoires extraordinaires.
Alors vous, en plein désert avec ces élèves, vous avez fait par exemple, en plein désert de Gobi, un cours sur le Big Bang. Ça doit être des expériences, je pense, ça doit être des cours qu'on n'oublie pas d'avoir eu dans ce décor, dans
ils
ce décor-là.
Pas. Non, ils s'en rappellent, ils me disent, tu te souviens quand on a fait le cours? Surtout qu'il y avait les loups qui ululaient derrière. Alors, de temps en temps, on avait aussi un accordéoniste, donc il mettait un petit peu de musique. Et puis, les cours, parce qu'on était coincés, donc on s'est mis dans les dunes et on a dormi à la Belle Étoile. Et quoi de plus extraordinaire sous le ciel, faire un cours sur le Big Bang, quoi.
Si parmi les auditeurs d'aujourd'hui, il y a des élèves que vous avez eus dans les années 80, 90, qui gardent un souvenir de ces cours, qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer un message pour nous dire ce que ça a changé ou ce que ça leur a apporté. Un message sur la page du Temps d'un Bivouac sur franceinter.fr ou sur la page Facebook s'ils ont Facebook. Puis on vous transmettra tout ça parce qu'il doit y avoir du monde hein, que ça concerne et peut-être parmi nos auditeurs. Alors la Mongolie, ça n'est qu'un exemple hein, parce que vous avez fait de nombreux voyages avec vos élèves. Donc vous étiez prof de sciences physiques au Groenland. Au Groenland, vous avez fait un cours sur la différence entre le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique.
Et oui, là parce aussi, qu'on sert d'une boussole. Si on veut faire une course d'orientation au pôle nord, c'est un petit peu délicat, quoi, parce que si on est au pôle nord magnétique, on risque pas de s'orienter. Donc il fallait mesurer différemment, et ça a été aussi un grand moment, ça. Avec les profs de gym, on leur a fait faire une course d'orientation. Ça a été fabuleux. Et je sais plus si c'est à cet échange-là ou au suivant, que pendant la course d'orientation, on a rencontré des Inuits qui venaient de chasser un ours polaire, une maman ours avec son bébé. Et ça, les jeunes ont été d'abord choqués parce qu'ils ont vu le dépeçage de l'ours. Puis ils m'ont dit, bon, bah, faut accepter parce que grâce à ça, ils vont pouvoir manger pendant peut-être un mois. Tout le village va pouvoir manger pendant un mois. Donc, voilà. Mais ça avait été dur pour eux de voir la maman ours tuée et le bébé ours aussi, quoi.
On imagine les élèves, les collégiens ou lycéens de retour dans leur collège et dans leur lycée racontant ce qu'ils avaient vécu avec vous.
La première chose qu'ils ont dit à leurs parents, maman, elle nous a fait dormir par moins 40 sur la banquise à la Belle Étoile.
Ça vous a valu des problèmes parfois, est-ce que vous faisiez faire assez...
Non. Avec l'administration, oui, mais pas avec les parents d'élèves.
Ouais. Les parents ont toujours été partants pour...
Oui. Ben, ils étaient prévenus, bon, on leur disait hein, qu'il y avait des risques, etc. Surtout sur le plan relationnel et un petit peu affectif, parce que les Groenlandais démarrent leur relation sentimentale à l'âge de 12 ans. Donc les gamins qu'on avait une douzaine d'années. Mais sinon, en dehors de ça, non, ça c'est extrêmement... C'était vraiment fabuleux.
Alors vous avez dit, hein, je l'ai pas laissé passer, vous avez dit avec l'administration, oui, on aura l'occasion d'y revenir, mais restons quand même dans le rêve et l'enthousiasme, on verra... Ensuite, pourquoi parfois l'administration vous a posé des problèmes? Le premier voyage que vous avez fait, le premier voyage scolaire, c'était au Zaïre, donc l'actuelle République démocratique du Congo. C'était en 78-79.
Oui, quelque chose comme ça, oui.
Et là, vous partez, alors là aussi c'est une très belle aventure, vous construisez avec la prof de techno et puis des lycéens de seconde un réfrigérateur solaire. On peut faire un réfrigérateur solaire?
Oui, ça marchait bien. Moi j'avais fait un stage chez Elf. Ouais. Et puis j'avais appris justement à faire travailler en énergie solaire et tout ça. Donc j'avais appris un certain nombre de techniques. Et puis donc on a mis ça au point avec les élèves. On l'a emmené, ça a été fabuleux. On a déposé un brevet dans le cadre de nos fonctions. Ouais. Et j'ai été la première prof à déposer un brevet dans le cadre de ses fonctions. L'Éducation nationale ne savait pas quoi faire de ça.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, non seulement vous l'avez mise au point, mais vous n'êtes pas contenté d'appliquer une petite fiche qui existait. Vous avez vraiment développé un système avec vos élèves.
Oui, avec les élèves, avec les élèves de seconde. Et donc, ça a été, on a emmené le réfrigérateur solaire là-bas. Et puis il a fonctionné, on avait fait des glaçons, etc. Mmh. Et donc après au retour, le problème c'est qu'est-ce qu'on fait d'un brevet dans l'Éducation nationale, quoi.
Ah oui. Alors qu'est-ce qu'on en a fait de ce brevet?
Qu'est-ce qu'on en fait? L'Éducation nationale a couvert le brevet pendant 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, il est tombé dans le domaine public. Et là, j'avais été contacté par Monsieur Mérieux, le grand responsable, qui m'a invité au Sofitel. Ah bon. De Lyon. J'avais jamais été invité au Sofitel et qui m'avait proposé de déposer un brevet. Aux États-Unis pour échapper à la loi française. Et moi, j'ai eu tellement peur que j'ai refusé.
Ah oui, d'accord.
Oh, non, j'ai dit, oh là là, moi, pas faire quelque chose de, dans les normes, pas bien comme il faut, c'était pas possible.
En tout cas, ce réfrigérateur, c'était pas du luxe, c'était pour ce village africain.
C'était pour conserver les vaccins.
Pour conserver les vaccins. Oui. Donc, vraiment, là, on se dit, pour les élèves qui vous ont accompagné dans cette aventure, tout y est, hein, parce qu'on a effectivement la techno, hein, il a fallu développer ce réfrigérateur. On découvre un pays. Et puis on voit aussi les problèmes de santé très concrets qui peuvent se poser à l'autre bout du monde.
Et puis les rencontres et toutes les modes de vie, parce que c'était des élèves de seconde. Il y en a plein qui sont tombés amoureux des filles de là-bas. Enfin, oh là 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 là, ça aussi, il faut gérer.
Ça aussi, vous en occupiez, vous?
Oui, il fallait bien. Ouais. Y compris moi, d'ailleurs, qui étais invité par le roi des Tchokwe, qui voulait faire de moi, donc il régnait sur une petite ethnie de 2000 personnes, il voulait faire de moi sa première femme européenne.
Vous avez refusé?
J'ai refusé, ça a été très difficile. Mes élèves m'attendaient du coin de l'œil puisqu'ils savaient qu'il allait venir pour me demander en mariage. Ils venaient avec une poule. Quand ils ont entendu arriver la poule, m'ont dit « Christiane, c'est ton tour ».
C'est incroyable les histoires que vous avez vécues avec vos élèves. Vous avez beaucoup travaillé sur les énergies solaires. Hein. Ça, c'était vraiment l'un de vos centres d'intérêt, on va dire. Vous avez développé aussi des fours solaires. Vous êtes d'ailleurs un peu une précurseuse de ce que l'on nomme aujourd'hui les low-tech, ces technologies douces. C'est un courant que le jeune aventurier Corentin de Châtel-Perron tente d'explorer aux quatre coins du monde. On le retrouve en Inde, à Auroville, sur le toit d'une cantine scolaire, avec l'un des constructeurs d'un bol solaire, une gigantesque parabole faite de miroirs qui font converger les rayons du soleil pour chauffer de l'eau qui, une fois transformée en vapeur, permet de chauffer les repas en cuisine.
Il y a combien de miroirs ?
Il y a 11 000 miroirs.
Wow, et ça a pris combien de temps de...
Un an.
Un an d'ajuster tous les miroirs ?
Oui, on devait travailler la nuit pour ne pas finir grillé. Nous voulions quelque chose de low-tech. Ça ressemble à du high-tech, mais c'est low-tech. Chaque miroir a été posé à la main, un par un. Donc c'est vraiment low-tech. Et le capteur, c'est juste de l'eau qui passe dans un tuyau.
Il y a combien de personnes qui mangent tous les jours dans la cantine ?
La cuisine fait environ 1000 repas. La plupart, c'est pour les élèves. C'est un système hybride, on a des brûleurs à diesel et des brûleurs solaires. Et ils fonctionnent ensemble. Je pense que pendant les jours de soleil, le bol solaire produit un tiers de l'énergie.
Il faudrait qu'il soit grand, si c'est...
Deux fois plus grand. On produit environ 60 kWh d'énergie solaire, comme 60 fours à gaz.
C'est comme avoir 60 bouilloires gratuitement, en fait.
Ouais.
Nous étions en Inde, à Auroville, à côté de Pondichéry. Et vous aussi, Christiane Mordelet, vous êtes allé. Alors ça, c'est tout récent, hein, l'expérience de four solaire que l'on vient d'entendre. Mais vous, comme je le disais, vous étiez une précurseuse. Et déjà à l'époque, vous aviez le sentiment que, avec ces technologies simples, on pouvait aider certaines régions. C'était en Inde, dans le Ladakh, une des régions du globe que vous connaissez le mieux.
Après, je suis retournée plein de fois. Mais la première fois, effectivement, c'était pour installer des cuiseurs solaires, des cafetières solaires, des douches solaires, des chauffe-eau solaires, etc. Et puis des murs-trombes, les premiers murs-trombes. Donc j'ai fait partie de ceux qui ont été deux à l'époque à installer des murs-trombes.
C'est quoi
les murs-trombes? Donc c'est ce qui a été fait là dans les Pyrénées. C'est Monsieur Trombe qui a inventé ça. Bon, c'est tout simple, hein. On met une glace et puis derrière un mur peint en noir. Et donc la chaleur est piégée. Et après on met un système de circulation d'air. Le problème, c'est que quand on a mis ces premiers murs trombes au Ladakh, les gens du coup à l'intérieur avaient des températures qui étaient supérieures à zéro. Ça, c'était dans les années 80. Mmh. Et il y a un vieux monsieur qui nous a dit « Oh oui, mais maintenant avec ces murs trombes, c'est bien, on a chaud, mais on est beaucoup plus malade. » Parce que du coup, les petites bactéries et les petits virus, ils étaient contents. Parce que sinon, avant, ils avaient moins 10 dans les maisons. Tandis que là, ils montaient à plus 12, plus 15. Et du coup, ça posait des problèmes au niveau... c'était les premiers effets, side effect de l'énergie solaire.
C'est intéressant parce que plusieurs fois, vous le dites, en voulant aider, en pensant à apporter les bonnes solutions, on se rend compte que finalement, des fois, avec plein de bonnes intentions, on n'arrive pas à ce qu'on voulait.
Très 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 remonter les bretelles par le directeur de l'école où on avait fait des cuiseurs solaires. Ils marchaient bien, donc on avait des températures de plus de 100 degrés à l'intérieur, 120, 130. Et je lui dis, on va cuire des pommes, parce que moi j'avais envie de faire des pommes au four, j'adore ça. Et quand j'ai commencé à cuire les pommes, le directeur de l'école était scandalisé. Il est arrivé, il m'a dit, mais arrête immédiatement. Puis je lui dis, quoi, je fais des pommes au four? Il m'a dit, oui, mais enfin, ça, on voit bien que tu viens des pays où on gaspille tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais nous, on n'a pas suffisamment de vitamines pour se permettre de les cuire.
Ouais, parce que quand on cuit une pomme, on enlève une partie
retire une partie des vitamines. Au-delà de 120, 130 degrés, certainement, il y a quelques vitamines qui disparaissent. En tout cas, eux ne font que sécher et ne font pas cuire. Depuis, ils le font. Parce qu'on arrivait avec nos confitures et tout ça. Et là, d'un seul coup, je me suis senti comme sous une douche froide. Alors que j'étais fier de ce qu'on avait fait. Et pareil avec, je sais pas si j'ai le temps de raconter, avec la bergerie. On a fait donc récemment, puisqu'avec notre film La Bergère des Glaces, on a eu des petits sous, on a pu aider des bergers. Et les premières bergeries qui nous ont demandé d'aider à construire, on a voulu les faire en solaire. Elles étaient hyper étanches. Dedans, il faisait 12 degrés quand il faisait moins 30 dedans. Donc on avait tout bien calorifugé, calfeutré, etc. Et les bergers, on leur dit, alors vous êtes contents? Moi, j'étais heureuse. Je me disais, tout va être merveilleux. Et puis ils me disent, oui, c'est bien pour le petit déjeuner, le repas du soir. Je dis, et la nuit? Ah ben non, la nuit, on dort dehors. Alors souvent quand je fais des conférences, je dis c'est la question à 10 balles. Pourquoi est-ce que... Alors les gens me disent, bah parce qu'ils ont trop chaud. Ben non, parce que les bergers, le loup, comme vous le savez, probablement, le loup il arrive à pas de loup, et le léopard il arrive à pas de léopard. Donc dans une maison solaire, complètement étanche, complètement insonorisée, ils n'entendaient pas le loup arriver. Ouais. Donc ils dormaient dehors alors qu'il faisait 12 degrés. Et du coup ils ont cassé les doubles vitrages.
Christiane Mordelet, professeure de sciences physiques à la retraite et réalisatrice de documentaires, toujours en activité, nous emmène dans ses aventures, le temps d'un bivouac sur France Inter. The Strokes sur France Inter qui chantait The Adults Are Talking dans le temps d'un bivouac.
Je pense que notre monde moderne connaît beaucoup de problèmes. L'économique, politique. Et que la clé de tous ces problèmes réside dans la réalisation, dans l'unité de chaque être humain. Nous sommes tous les mêmes êtres humains. Regardez les membres d'une même famille. L'un est grand, l'autre petit, l'autre est gros, l'autre mince, mais ils font partie de la même famille. C'est un peu ça, vous voyez. Nous sommes tous des êtres humains, tous les mêmes, n'est-ce pas ?
Christiane Mordelet, ancienne enseignante de sciences physiques qui a fait voyager près d'un millier d'élèves dans le monde et qui est aujourd'hui réalisatrice de documentaires, est notre invitée. Christiane Mordelet, est-ce que vous avez reconnu la voix de la personnalité que l'on vient d'entendre?
Oui, avec ses intonations, ça peut être que le Dalai Lama.
Ouais, alors ça vous rappelle certainement quelques souvenirs parce que vous l'avez rencontré, oui, là encore avec des élèves. Nous
avec
étions
élèves.
En 1987.
87.
Il vous a accordé 2 heures. Qu'est-ce
deux
que
heures.
Vous vous êtes raconté?
Ça a été 2 heures de très grand moment pour mes élèves. Sur le coup, je crois qu'ils sont pas réalisés ce qu'ils étaient en train de vivre, de pouvoir poser chacun une question sur sa vie, sur sa réincarnation. Est-ce qu'il voulait se réincarner? C'était en 87, il avait pas encore eu le prix Nobel de la paix. Mais maintenant, ils se rendent compte, quoi, de ce que ça. C'est, ils m'ont dit, mais c'est un moment extraordinaire. Et il y a eu plein de petits. Alors, il y a eu quelque chose de très drôle, c'est que je leur avais dit, bon, vous rencontrez le Dalai Lama, c'est pas n'importe qui, donc il faut que vous arriviez avec les traditions tibétaines. Donc, on avait appris à remettre la katak, la fameuse écharpe blanche. Et donc, comment on doit lui remettre, et ensuite comment on repart en marche arrière sans rentrer dans les meubles qui sont derrière. On avait fait une répétition. Et donc, mes premiers élèves arrivent pour remettre la katak, et le Dalai Lama les prend dans ses bras et leur fait 2 gros bisous bien sonnants sur les joues. Mes élèves, Christiane, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et le Dalai Lama qui rit et qui dit, bah, c'est pas comme ça que vous faites en France. Vous vous embrassez pas comme ça.
Chacun avait révisé les coutumes de
voilà.
L'autre.
Voilà. Et résultat, mes pauvres élèves savaient plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Et après, il nous a dirigés. Ben, on va prendre le thé ensemble et posez-moi des questions. Et ça a été un grand, grand moment. Oui.
Un autre moment fort que vous avez vécu avec vos élèves, ils sont souvent ancrés dans l'histoire. Nous étions cette fois en 1984 et vous aviez prévu une rencontre avec Indira Gandhi, ancienne première ministre de l'Inde. Mais ça ne s'est malheureusement pas passé comme prévu.
Et non, et là ça a été... Bon, moi j'avais eu la chance de la rencontrer 2-3 fois. C'est une femme que j'ai toujours énormément appréciée, même s'il y a eu des petites choses dans l'histoire qu'elle a peut-être, elle a peut-être pas dû faire, mais c'était quelqu'un d'extrêmement humain, d'extrêmement... Moi, j'avais une admiration éperdue pour cette femme. Et donc, on devait la rencontrer à, je crois que c'était 10h du matin. Et on avait pris une auberge qui était juste avec un mur mitoyen par rapport à sa maison, avec mes élèves. Donc, on devait la rencontrer à 10h du matin. Et à 7h du matin, je réveille les élèves et ils me disent « Christian, on a entendu des coups de feu. » Aujourd'hui, écoutez, les petits, là, vous écoutez trop de romans policiers, vous regardez trop à la télé les romans policiers, pas de raison qu'il y ait des coups de feu ici. « Si, si, je te jure. » Non. Oh, bon, on y va vers 9h, on arrive vers 9h, on frappe à la porte d'Indira Gandhi, de sa maison, et on est les 2 sikhs qui l'avaient probablement assassiné, parce que je pense que c'était ces 2 gardes du corps qui étaient là, qui nous reçoivent et qui nous disent on est un petit peu désolé, mais elle est souffrante. À mon avis, elle était déjà morte depuis 7h du matin et c'était 9h.
Vous aviez rendez-vous avec Indira Gandhi le jour de son assassinat.
Le jour où elle a été assassinée. Ah oui, non, ça c'est quelque chose d'extraordinaire parce que mes élèves n'ont jamais oublié ça. Ah bah oui. Moi non plus d'ailleurs.
Oui. Alors évidemment, c'était pas prévu au voyage
c'était
et vous vous en seriez bien passé.
On
mais effectivement,
passé,
ça doit marquer.
C'était... Alors, il nous a dit, revenez à 10h. Ils nous ont dit ça, hein, les sikhs, alors qu'ils savaient très bien qu'il l'avait assassiné. Revenez à 10h. À 10h, on est revenu. Nous ont dit non, elle est vraiment souffrante. Elle ne pourra pas vous recevoir. Et pour cause, elle était déjà là-haut au ciel. Ouais. Et à 11h du matin, ça a commencé à se dire qu'elle était morte et qu'elle avait été assassinée par ses gardes du corps sikhs. Et là, ça a été la ville à feu et à sang. Ils s'enflammaient, ils se balançaient de l'essence, les sikhs sur les hindous sur les sikhs, c'était terrible. Et moi, j'avais tous les passeports qui étaient à l'ambassade de France à New Delhi, et on devait rentrer 2 jours après. L'ambassade de France a rouvert l'aéroport que pour nous. On a eu un avion pour nous tout seuls, avec une escorte militaire. J'ai ramené tout le monde, évidemment, quand on est arrivé en France. On a eu tous les médias. Ils ont vécu l'histoire au présent. Ils étaient là pendant ce grand jour, etc. Ça a été vraiment un grand moment qui m'a valu les pires ennuis de mon administration.
Oui, alors on en revient à cette administration. Alors dites-nous, par exemple, là-dessus, quand vous revenez de ce voyage qui a mal tourné...
Mal tourné, mais en même temps...
Oui, vous ne pouviez pas le prévoir.
On ne pouvait pas le prévoir et j'ai ramené tout le monde. Tout le monde était... En plus, ils se sont rendus compte qu'ils ont vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on vous a reproché? Alors, vous avez été convoqué au rectorat?
J'ai été convoqué au rectorat. Donc, il m'a dit que d'abord, il en avait assez parce qu'on parlait trop de moi dans les journaux. Et ensuite, il m'a dit, de toute façon, à partir de maintenant, j'interdirai tous les voyages à l'étranger, etc. Et donc, effectivement, ils ont énormément vissé les voyages à l'étranger à partir de là. Et bon, bah, c'est vraiment dommage, parce qu'en plus, après, il m'a envoyé un inspecteur pour voir si je faisais bien mon travail. Enfin, ça a été... J'ai été la bête noire de l'éducation nationale.
C'est-à-dire que ces voyages, ces expériences extraordinaires, vous les avez vraiment fait de bon cœur, mais on vous a pas toujours facilité le travail pour le faire.
Ils avaient peur, quoi. Ils avaient peur de je sais pas quoi, parce que bon, de toute façon, on prend autant de risques d'emmener ses élèves à Londres que de les emmener au Ladakh ou en Mongolie.
Alors, il s'agissait souvent d'échanges avec un correspondant venait. Alors, c'était 3 semaines, les Français allaient dans le pays du correspondant, et 3 semaines, les correspondants venaient partager.
Non, 5 semaines.
Cinq semaines.
Ah, oh, bah oui, tant que faire. C'était le même prix qu'on les fasse venir pour 5 semaines ou 3 semaines. Comme ça, ils allaient dans plusieurs endroits.
Ouais.
Et donc, en général, dans 5 lieux différents. Et en général, on les invitait en premier, de manière à ce que les familles françaises, ayant vu le petit correspondant, aient moins peur de laisser partir leur petit français.
Alors, les Ladakhis, par exemple. On a cité le Ladakh, là, au nord de l'Inde, hein, on est en altitude. Ça ressemble à quoi, le Ladakh ?
Un désert, et puis des oasis. Voilà, il n'y a rien qui pousse. Et puis, simplement, le long des canaux d'irrigation, des peupliers, des choses comme ça.
Mais les enfants qui vivent au Ladakh, quel est leur quotidien ? Dans quelle maison vivent-ils ?
Ben, ils vivent dans des maisons en terre, et puis ce sont des enfants d'agriculteurs ou des enfants de bergers. Ça dépend un petit peu. Ben, maintenant, ils vivent beaucoup du tourisme. Et le tourisme est en train de faire des ravages là-bas. Ça devient terrible.
Alors, certains des Ladakhis ont été surpris, on l'imagine, de voir comment se passait la vie au quotidien dans les maisons occidentales, et notamment dans nos cuisines.
Pourquoi tu cuisines par terre ?
Quand je suis sur une table, je n'arrive pas à le faire. Quand on prépare les repas au Ladakh, on est toujours assis par terre. C'est pas bien sur la table, il faut mettre les coudes comme ça et c'est pas confortable. Ça me fatigue. Ce qui m'a le plus surprise ici, ce sont les machines à laver la vaisselle. J'avais même pas imaginé que ça puisse exister. Ici, les cuisines sont pleines de machines, c'est bien. C'est plus pratique et plus confortable. Avoir des machines, c'est bien, ça repose le corps. Je suis bien ici, mes parents sont très gentils. Mais la culture est si différente. Ils n'ont pas de temple domestique, ni de salle de prière. Ils ne font pas nos prières. Au Ladakh, je fais toujours mes prières avant d'aller à l'école. C'est totalement différent.
Une jeune Ladakhi surprise devant les différences culturelles. Ce sont à chaque fois des extraits de vos documentaires et de vos films, hein, Christiane Mordelais, que nous diffusons. Avec ces mots, cette jeune fille met en parallèle notre accumulation de biens matériels, technologiques, et puis notre moins grand attachement à la spiritualité. Ça les a choqués, ces différences culturelles ?
Tout les a choqués. Alors si on commence par dire ce qui les a choqués, il y en a une sacrée liste.
Ouais.
Bon, d'abord, le fait qu'il n'y ait pas de grands-parents dans les familles, que les grands-pères et les grands-mères soient dans des maisons de retraite. Ça, alors là, ils ont même pleuré. Ensuite, les familles. Ils ne s'y retrouvaient pas dans les familles. Ils nous disent, mais on n'y comprend rien dans vos familles. On ne sait pas si c'est le vrai père, la vraie mère, si c'est des vrais frères et sœurs. Mais qu'est-ce que c'est ces familles ? Decompose family, recompose family, on ne comprend rien. Des fois, il y a 2 papas. On comprend pas tout ça. Et puis, il y en a une, la petite qu'on a entendue. À un moment, je lui dis, et alors, tu voudrais te marier avec un Français? Oh, elle dit non, surtout pas. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que 6 mois après, il demande le divorce.
Ouais.
Et puis, il y en a un qui fait la description du, je lui demandais la description d'un bisou français. Alors, il m'a dit, je dirais à un de mes amis qui vient en France, je dirais, faut pas que t'aies peur, hein, parce que quand tu vas arriver en France, la maman, elle va te prendre dans tes bras. Dans ses bras, elle va mettre ses lèvres sur tes joues, c'est mouillé, ça fait un drôle de bruit, mais faut pas que t'aies peur.
Ouais.
Ça, c'est des descriptions, ouais. Ça les choque profondément. Parce
inversement, les Français ont pu être surpris par certaines traditions.
Par le bisou mongol.
Ah oui,
le bisou mongol, c'est quoi ? Où on renifle dans le cou.
Ouais.
Et ça, tu sais, mais pourquoi il me renifle comme ça? Mais c'est pas bien ça, de me renifler. Enfin, les gamins étaient choqués, ça.
Alors évidemment, c'est très intéressant pour des enfants de confronter comme ça un peu sa culture. Alors, vous parliez de la Mongolie notamment, et là, aussi bien de la part des Français que des jeunes Mongols, ils se sont interrogés sur la liberté. Ah, je vous propose d'écouter l'un des enfants mongols à ce sujet.
Quand j'étais en France, ce qui m'a manqué, c'est mon cheval, ma steppe immense. En France, j'ai manqué d'espace, car tout est occupé. Ma liberté m'a aussi manqué, car en France, presque tout est interdit. Les parents disent toujours « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Alors que chez nous, en Mongolie, je fais ce que je veux.
Les enfants français qui sont allés aussi en Mongolie et notamment dans ce désert de Gobi, est-ce qu'ils trouvaient que la vie était plus libre là-bas ?
Oui. Ça, cette notion de liberté, que ce soit en Mongolie, que ce soit au Ladakh, que ce soit au Groenland. Groenland aussi, une gamine qui me disait, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils ont envie de partir chasser, ils partent chasser. Ils vont pas à l'école ce jour-là, tant pis. Et en Mongolie, pareil, ils ont été frappés par cette liberté et le fait que les parents disent jamais « fais attention ». Et la petite Célia qu'on a entendue au début, elle dit « mais moi, mes parents, si mes parents ils étaient venus, ils m'auraient dit « fais attention, fais pas ci, fais pas ça, faut que tu te laves ». Que là, je faisais comme j'en avais envie. Et cette notion de liberté, nos gamins français, ils en souffrent finalement, parce que les parents les privent de liberté, du coup les privent d'autonomie, les privent de créer, les privent de plein de choses. Mmh. Et ça fait un système d'éducation qui est complètement aux antipodes de ces modes d'éducation, de ces familles nomades, où l'enfant, il est lui-même, il découvre tout avec son propre corps, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, dans les deux sens, ils le sentent vraiment. Et ça fait des valeurs, ça fait des... Nous, on est dans une société hyper sécurisée. Et les mots, à chaque fois, quand je dis quels sont les mots que vous avez le plus entendu dans notre langue française, ils disent « fais attention ». Et dépêche-toi. Ah, le dépêche-toi aussi, hein, quand même. Ouais. Il est là, le dépêche-toi. Et fais attention tout le temps, quoi. Ouais.
Pour vous, c'est intéressant, en tant qu'enseignante, d'avoir pu voir d'autres modes d'éducation, d'autres façons de concevoir la façon de responsabiliser un enfant, par exemple, justement en lui laissant une plus grande part de liberté, mais une liberté qui va aussi avec des responsabilités. Ah ben parce que c'est ce qui frappe hein, dans vos films, notamment, c'est que ces jeunes enfants, ils ont souvent à charge des travaux pour la maison, des responsabilités importantes, hein.
Des responsabilités énormes. Je vois Stanzine, avec qui je travaille maintenant, mon co-réalisateur.
Donc ça, c'est au Ladakh.
C'était au Ladakh. Ben, à 5 ans, il était responsable du troupeau de chèvres et du troupeau d'yaks familial. Et donc, il fallait qu'il s'en occupe à 5 ans. Les parents leur disent, tu vas garder les bêtes dans la montagne. Il s'est cassé la jambe. Et ben, il a trouvé un bout de bois pour remettre la jambe avec une fracture ouverte. Il me disait, il y avait plein de sang partout. Il a trouvé une branche d'arbre pour redescendre au village. Mmh. Et puis, c'est tout. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Mmh. Et donc ça les responsabilise. En même temps, il y a une fierté parce que ce soit un gamin en Mongolie, si par exemple là ce qu'on est en train de faire avec les petites gamines mongoles, quand une gamine de 10 ans, elle a derrière elle un chameau qui fait 2,80 m de haut et qui lui obéit au doigt et à l'œil, ou un petit gamin du Ladakh avec un yak qui fait 200 kg et qui lui obéit au doigt et à l'œil, eh ben je peux vous dire que ça donne une fierté. Et du coup, c'est des gosses qui sont construits dans la fierté. Ils sont heureux.
Nous allons voir ce que les tournages de vos films vous ont appris sur ces cultures. Le temps d'un bivouac avec la professeure de sciences physiques devenue réalisatrice, Christiane Mordelet, sur France Inter.
Traces of you.
Anoushka Shankar avec Norah Jones qui chantait Traces of You sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Ici, ma meilleure amie, qui est pour moi comme mon père, ma mère, mes frères ou mes sœurs, c'est ma radio. Quand la radio ne marche pas, je me sens vide, comme si j'avais perdu quelqu'un. La radio, c'est aussi utile d'une autre façon. Par exemple, si un animal sauvage arrive, je mets la radio très très fort. Et je vois le léopard qui hésite, car il croit qu'il y a beaucoup de monde. Je les ai vraiment vus hésiter.
Extrait de votre film La bergère des glaces, Christiane Mordelet, dans lequel vous rendez compte de la vie des bergers au Ladakh. Je rappelle que ça se situe en altitude au nord de l'Inde. Nous partageons ce point commun avec cette bergère d'aimer profondément la radio. Sauf qu'elle, ça lui sert d'instrument de survie. Hein.
Oui, c'est un très beau passage que vous avez choisi là. Ouais. C'est vrai que cette petite bonne femme sans sa radio, moi j'étais ahuri de voir, en plus elle a un poste de radio français, un poste Philips, enfin ça doit être vendu en Inde, et de voir que, alors elle chauffe ses piles pour essayer de capter, elle arrive à capter des petits bouts d'ondes. C'est incroyable. Quoi. Ouais.
Avec ce film, vous vouliez montrer la rudesse de ces hommes et de ces femmes bergers au Ladakh.
Bergers du Cachemire.
C'est un métier difficile.
Oh, c'est terrible parce que pour avoir du bon Cachemire, il faut moins 40 degrés, plus 5000 mètres d'altitude. En Mongolie, ils ont bien les moins 40, mais ils ont que 2000 mètres. Et plus on monte en altitude, plus la laine est fine, plus elle est chaude. Et donc eux, ils disent des pashminas. C'est vraiment le top niveau de la laine Cachemire. Et il faut. Le problème, c'est que les chèvres font cette laine, mais les bergers font pas la laine cachemire sur leur dos. Donc eux, ils sont obligés de vivre aussi à 5000 mètres par moins 40, sous des tentes. Mmh. Et donc, quand moi j'ai vu ça, que Stanzine m'avait présenté sa sœur, j'ai dit, écoute, faut vraiment qu'on montre comment ces femmes et ces hommes vivent pour que nous, en Europe, on ait des pulls qui vont coûter 300 ou 400 euros pièce en cachemire et qu'eux, ils sont payés 8 euros le kilo. Mmh. Et je trouvais que c'était vraiment un tel océan entre les deux. Enfin, c'était inimaginable que vraiment je voulais montrer cette vie très rude. Et donc, ce film, il a eu 12 grands prix internationaux grâce auxquels on a pu construire à l'heure actuelle, 12 bergeries en dur.
Les fameuses bergeries dont vous nous parliez en début d'émission.
Voilà.
Et dont
oui.
Vous vous êtes rendu compte qu'il fallait enlever les fenêtres parce que sinon ils n'entendaient plus les animaux sauvages autour.
Alors après, ils nous ont dit, maintenant les sous que tu gagnes dans les festivals, tu nous les donnes et nous, on va faire nos bergeries. Et c'est donc les gens du village qui ont fait leur propre bergerie. Ouais. À l'heure actuelle, il y en a 12 de fait.
C'est une leçon d'humilité, cette idée qu'on peut être plein de bonnes intentions, mais c'est quand même eux qui savent ce dont ils ont besoin pour s'en sortir et pour s'aider.
Ça, c'est très fort parce que je trouve qu'un peu partout, on arrive avec soi-disant nos bonnes idées et je me rends compte que dans tous ces pays-là, les gens sont extrêmement intelligents et ils ont résolu leurs propres problèmes et ils savent très bien vivre dans leur pays et finalement... Qu'est-ce qu'on va y faire, quoi.
On peut les aider en leur donnant un peu d'argent, peut-être, pour monter.
Éventuellement.
C'est ce que vous faites, en tout cas, grâce au film que vous avez fait.
Et puis les faire venir, parce que Tsering, on l'a fait venir en France.
Ouais.
Alors ça, ça a été un grand moment. Parce que, comme tous les nomades, que ce soit les nomades du Groenland ou de la Mongolie, les nomades, c'est des gens, vous les mettez n'importe où, tout de suite, ils sont à l'aise. Parce que c'est des gens, tout de suite, ils ont regardé autour d'eux qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, et tout de suite, ils savent faire. Et ça, c'est fabuleux, la différence entre les nomades et les sédentaires. Ouais.
La capacité d'adaptation, d'observation. Alors, ce savoir-faire est en train de se perdre, notamment, vous l'avez observé, pour ces bergers et ces bergères. Voici les mots d'une de ces femmes bergères que vous avez rencontrées.
Dans ces vallées vides, je suis seule, femme et bergère. Mais si tu as la volonté, tu peux le faire. Tu vois toutes ces arêtes à serrer. Si tu concentres ton énergie dans ton cœur et ta tête, tu peux y aller. Même un berger peut y aller. Ici, tu dois tout apprendre par toi-même car il n'y a personne qui peut te guider. Maintenant, plus personne ne veut faire ce métier. Les gens sont si fragiles maintenant. C'est très difficile. Par exemple, dans ma famille, si je ne pouvais plus faire ce métier, qui le ferait? Toutes les familles ont le même problème. C'est comme ça dans tout le Ladakh. Plus personne ne sera berger, alors?
Christiane Mordelet, les connaissances et les savoir-faire de ces bergers sont en train de se perdre?
Tout à fait. Et là, je me sens une espèce de responsabilité étonnante, mais en tant qu'enseignante, je me dis qu'on a tout faux dans l'enseignement. Et des fois, j'en arrive à me dire, parce que c'est l'éducation qui fait que c'est... Il n'y aura plus de bergers dans 10-15 ans, il n'y aura plus un seul berger dans ces régions.
Parce que ces enfants de ces familles sont scolarisés, ils vont à l'école et qu'à l'école...
Ils sont brillants, ils font tous des études supérieures. Les quatre nièces de mon co-réalisateur Stanzin, et c'est-à-dire les quatre filles de son frère, elles font toutes des études supérieures, elles sont brillantes. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ne veulent pas être bergères, elles ne veulent pas revenir au pays. Et tous les Ladakhis, ils ont 99% de réussite au baccalauréat. L'éducation est un ascenseur, c'est même pas un ascenseur, c'est une fusée sociale. Mais résultat...
On ne peut pas le regretter pour autant. Est-ce qu'il faut leur souhaiter de ne pas avoir accès à cette éducation?
Moi, je ne sais pas quoi répondre à ça. Parce que du coup, le pays va disparaître. Parce que s'il n'y a plus de bergers, il n'y a plus d'agriculteurs, puisqu'il n'y aura plus d'engrais. S'il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus de villages. S'il n'y a plus de villages, il n'y aura plus rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et tout le monde va arriver dans les villes, tout le monde va être dans les banlieues de Delhi, Bombay, Calcutta. Et puis voilà, la planète, qu'est-ce qu'elle va devenir?
Peut-être qu'il faut intégrer ce savoir-faire et cette formation à l'éducation, mais ne pas opposer les deux.
Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Sona Manchu, qui travaille avec le SECMOL, enfin qui a fondé le SECMOL, qui essaye de faire une université alternative au Ladakh. J'aimerais bien qu'il y arrive parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un mouvement pour qu'on réhabilite les anciens savoirs. Les anciens, ils n'étaient pas idiots, ils savaient tout faire.
Christiane Mordelet, on arrive bientôt à la fin de cette rencontre. Je voudrais vous dire que l'appel qu'on a lancé en début d'émission en disant si vous avez voyagé, si vous faites partie de ces milliers et ce millier d'élèves que Christiane Mordelet a fait voyager, envoyez-nous un message. Alors on a reçu quelques mails, notamment Margot qui nous dit « Je suis contente de vous entendre, Christiane. Mon dernier voyage, 16 ans après la classe de 4e au collège Jean Rostand, était au Ladakh. » pour retrouver Jimé Nordzom, ma correspondante. Merveilleux voyage et superbe rencontre avec sa famille et son environnement. Bonne continuation, vous dit Margot. Et puis Corinne qui vous dit « Mon fils est allé au Ladakh avec Christiane et c'était une très belle expérience pour lui. Il s'appelle Robin et il était parti avec les enfants de la Grave. » On sent que pour les familles, pas seulement pour les enfants qui sont partis, pour les familles, vous leur avez offert une expérience. Oui. Plusieurs années, voire dizaines d'années après, ils s'en souviennent.
Tout à fait. Et là, j'ai encore revu une maman qui m'a dit, les deux années pour lesquelles on a travaillé sur le Groenland, là, c'était dimanche dernier, me dit, ça a été les deux plus belles années de ma vie. J'en étais tout émue, avec les larmes aux yeux, parce que j'avais envie de lui dire, mais il y a eu d'autres belles années de ta vie. Et elle dit, non, ça a été des années, on a travaillé comme des fous, parce qu'il fallait trouver les financements, etc. Et néanmoins, c'était les deux plus belles années de sa vie. Quoi. Ouais.
Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus enseignante, vous êtes réalisatrice. Est-ce que c'est plus difficile de monter des voyages pour faire des films, financer vos films, qui sont parfois diffusés sur Arte, que de faire des voyages scolaires?
C'est pas du tout la même chose. Disons qu'avec les voyages scolaires, y avait toujours les parents d'élèves qui étaient derrière. Donc, il y avait un peu une aide avec les parents d'élèves. On arrivait à trouver, puis faire voyager des enfants. On trouve des gens qui sont sensibles à ça. Mmh. Faire des films, il y a beaucoup moins de gens qui sont sensibles à ça.
Alors, en 10 secondes, votre prochain projet de film, et si ça peut intéresser des gens, si on peut vous filer ce coup de main-là, Christiane Mordelais.
On cherche désespérément une diffusion pour nos prochains films, Grandir en Mongolie, Le Rat des Dunes, Le Rat des Villes, Bakula Rinpoche, un ambassadeur hors du commun que j'ai eu la chance de connaître. Donc, il y a au moins 4-5 films qui sont en attente. Un film aussi sur les gravures rupestres au Ladakh. Enfin, tout ça, c'est en attente. Ça ne demande que des diffuseurs.
Eh bien, écoutez, si jamais des diffuseurs nous écoutent et nous envoient leur message, on se fera un plaisir de transmettre. Merci à vous, Christiane Mordelais.
Merci.
Restez avec nous dans un instant. Un habitué du temps d'un bivouac, le sociologue de l'alimentation Éric Birloez, va nous emmener sur la piste des différents ingrédients de la ratatouille.
Une chanson qui sent bon le chagrin, pour te dire combien je suis seul, pour te dire combien je suis las. Un couplet aux airs, un faux refrain, pour dire combien la vie est laide, oui combien elle est dégueulasse. Une chanson qui frise la complainte, pour te dire que la pluie est triste, pour te dire que la neige est crade, que la lumière n'est que demi-teinte, que j'ai l'air d'un équilibriste, plus que d'un avaleur de sabre. Je me souviens de ton dos, de Saint-Louis en ligne, puis rien de rien, plus un mot. Un bâton de cire. Je me souviens d'une chanson qui sent bon le chagrin, te dire que j'ai un chat persan qui se niche au fond de ma gorge. Un couplet aux airs, des faux refrains qui sent ni la sueur ni le sang, pareil au chant du rouge-gorge. Une chanson qui jouxte mes prières, pour te dire que je me sens vide, pour te dire que je suis une épave, et que je ne vois même plus la lumière, mais dans le loin des pyramides, pardonne-moi, je sors du cadre. Je me souviens de ton dos. Saint-Louis en ligne, puis rien de rien, plus un mot, un bâton de cire. Je me souviens, je me souviens. Je me souviens, je me souviens. Une chanson qui sent bon la rancœur, pour te dire combien je suis las. Pour te dire combien je suis l'ombre, l'ombre de moi-même, et puis encore, ma peau est revêtue de glace, et mes idées noires en surnombre. Un couplet en forme de douceur, pour dire que je n'ai plus de place dans ton sillage et tes silences. Une chanson qui rêve de chaleur, à écouter si le temps passe, en ne laissant qu'un vide immense. Je je me souviens, je me souviens.
C'était Benjamin Biolay avec Juliette Armanet qui chantait Rue Saint-Louis en Île. La programmation musicale de cette émission est signée Muriel Pérez. C'est Hélène Couilloum-Jean à la réalisation et à la technique aujourd'hui, Élise Christophe. Et si nous passions à table à présent, nous allons nous intéresser aux origines lointaines d'un plat méditerranéen bien connu avec un habitué de l'émission, le sociologue de l'alimentation Éric Berloël.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
Bonjour Éric Birloise.
Bonjour Daniel.
Au menu aujourd'hui?
Alors Daniel, si je vous dis aubergine, courgette, tomate, poivron, oignon, ail, huile d'olive, herbes aromatiques, vous pensez à...
Alors je salive et je pense à la ratatouille.
Oui, c'est le plat provençal par excellence, le plat méditerranéen. Mais attention, ce plat est constitué d'aliments et d'ingrédients qui, pour la plupart, ne sont pas nés sur les rives de la Grande Bleue. Ils viennent de beaucoup plus loin et ils ont donc accompli un très long voyage avant d'arriver dans nos assiettes, bien plus que le temps d'un simple bivouac. La ratatouille, c'est en quelque sorte un concentré de la mondialisation de l'alimentation. Un mets dont les composants ont des origines géographiques aussi lointaines que variées.
Mais la ratatouille elle-même, en tant que spécialité culinaire, est bien provençale quand même, non ?
Oui, oui, absolument. Elle est née sous le soleil de Provence, dans le comté de Nice. D'ailleurs, son nom, ratatouille, vient de l'occitan ratatoya, avec, étymologiquement, un lien avec le verbe touiller, remuer pour mélanger. Le mot ratatouille, il apparaît pour la première fois en 1778. À l'époque, il désigne un ragoût, ou un mets grossièrement cuisiné. Dès le début du 19e siècle, les militaires connaissent ce plat sous son abréviation argotique, le rata, mais c'est un mélange peu ragoûtant de haricots secs et de pommes de terre. En 1846 encore, le dictionnaire provençal français de Monsieur Honorat comporte le mot ratatoya. Le terme est défini comme, je cite, « une soupe pour les rats ». Son étymologie, selon l'auteur, est « un mauvais ragoût fait avec la rate des animaux ». Vous voyez, les rats, la rate, c'est pas très appétissant.
Non, pas franchement.
Et il faut attendre plus d'un siècle, l'année 1952 précisément, pour enfin voir apparaître la toute première recette de ratatouille telle que nous la connaissons.
Alors passons rapidement en revue les ingrédients de notre ratatouille et le long voyage qu'ils ont fait depuis leur berceau.
Oui, commençons par l'aubergine. Alors le mot lui-même déjà a beaucoup voyagé. Il est issu du catalan albergina, qui vient de l'arabe, tout comme les mots abricot, artichaut, épinard, estragon, qui eux aussi viennent de l'arabe. Mais le terme arabe pour l'aubergine, al-bedenjena, est lui-même d'origine persane. Et il se trouve que le mot persan est apparenté à un mot sanskrit. Mm-hmm. Vous me suivez toujours, Daniel ?
Oui, oui.
Eh bien, tout ça pour vous dire que l'aubergine a d'abord été domestiquée en Inde, plus largement en Asie du Sud-Est, il y a 3000 ans. Mais ceci dit, les espèces sauvages les plus anciennes d'aubergine étaient, elles, originaires de la partie est de l'Afrique. Et ce sont les Arabes qui, au 9e siècle, ont apporté dans le bassin méditerranéen l'espèce qui était cultivée en Asie. Mais l'aubergine ne sera introduite dans le sud de la France que beaucoup plus tard, à partir du 17e siècle seulement, en provenance d'Italie ou d'Espagne. À l'époque, on la considère comme une plante dangereuse. On la réserve donc à un usage ornemental, comme la tomate. Il faut attendre le 19e siècle pour que l'aubergine commence à être timidement consommé dans notre pays.
Et dans la ratatouille, il y a aussi les tomates, les courgettes et les poivrons.
Oui, ces légumes-fruits sont tous trois d'origine américaine, ce qui explique que la ratatouille n'aurait pas pu exister avant la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb en 1492. Parlons de la courgette, qui n'est pas autre chose qu'un type de courge cueillie avant maturité. Et ce sont les Italiens qui, les premiers, sont parvenus à sélectionner les types de courgettes que nous mangeons aujourd'hui. Les Français, eux, en consomment des courgettes depuis très peu de temps. Et le poivron, quant à lui, est issu des piments, mais des piments que les hommes ont sélectionnés pour faire disparaître leur saveur brûlante.
Et l'huile d'olive, alors ?
On pressait des olives il y a déjà 6000 ans au Liban actuel et sur l'île de Chypre. L'huile d'olive est donc originaire de la Méditerranée, mais de la Méditerranée orientale. Ce sont les colons grecs de Phocée, une ville située sur la côte de l'actuelle Turquie, qui nous l'ont fait connaître. Ces Phocéens, en fondant la ville de Marseille en 600 avant Jésus-Christ, auraient enseigné aux autochtones la culture de l'olivier, en même temps d'ailleurs qu'ils leur ont appris à cultiver la vigne.
Au moins les herbes de Provence avec lesquelles nous parfumons la ratatouille sont bien provençales, non ?
Elles le sont rarement en réalité. Aujourd'hui, 90% de ces herbes dites de Provence proviennent du Maroc, de Turquie, d'Albanie et surtout de Pologne, qui est le premier producteur mondial de thym. Herbe de Provence, c'est une appellation d'origine, hélas, non protégée. Depuis 2003, il existe malgré tout un label rouge qui permet aux consommateurs exigeants d'acheter un mélange bien précis d'herbes de qualité, toutes récoltées, dans le sud de la France.
Vous m'avez mis en appétit. Il va falloir attendre que ce soit la saison de tous ces légumes pour passer à la pratique. Merci, Éric Birloez. Je rappelle que vous êtes sociologue de l'alimentation et j'invite les auditeurs à découvrir deux de vos derniers ouvrages. Que mangeaient nos ancêtres de la préhistoire à la Première Guerre mondiale, publié aux éditions Ouest France. Et puis, Petite et grande histoire des légumes aux éditions Quae. Nous allons mettre, bien sûr, toutes les références sur la page du Temps d'un Bivouac sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.